Je vais vous expliquer un peu pourquoi on a préparé cette conférence, avec quelle idée. Et on parle souvent des biens communs et on a l'impression qu'on comprend ce qui c'est avec une sorte d'intelligence intuitive. Mais dès qu'on doit l'expliquer, on a un peu du mal parce que c'est souvent des concepts qu'on a plutôt devinés. C'est des concepts qui semblent très abstraits, et voilà. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de parler des biens communs, et des biens communs urbains en particulier, mais pour pouvoir ensuite agir depuis une approche de défense des biens communs. Alors, on est ici dans une sorte de conférence opérationnelle, pour qu'ensuite, chacun d'entre vous puisse agir de manière plus facile autour des biens communs. Tu es d'accord?
Oui.
Alors, on a identifié 5 concepts qui nous sont apparus un peu l'un après l'autre. C'est-à-dire, en parlant de la propriété, on a voulu parler de la communauté. En parlant de la communauté, on a voulu parler du plaisir d'agir. Et... D'accord, tu veux dire quelque chose ?
Non.
Oui, en fait, je monopolise toujours le micro, c'est pour ça que... Alors, Elena et moi, on fait partie d'un réseau qui s'appelle CivicWise, et qui est un réseau international. On s'organise dans plusieurs villes de France, Espagne, Italie, et Amérique du Sud. Bon, on est dans plusieurs pays, et on s'organise dans des collectifs qui travaillent à l'échelle locale et qui ensuite interagissent avec les autres collectifs. Alors, on a une dimension locale, dans le sens où on est dans un territoire et on agit dans ce territoire, avec des gens du territoire, mais ensuite on a une dimension globale qui nous permet de partager des expériences. On est des petits collectifs, genre 5, 10 personnes, 20 personnes max dans chaque ville. Et tout ce qu'on fait, et après on le raconte au collectif d'autres villes, et ça nous permet de nous inspirer et d'avancer plus vite, parce qu'on travaille autour de tout ce qui est lié à l'intelligence collective et la ville, ou l'intelligence collective et les territoires. C'est les démarches participatives et le travail en réseau au sein d'un territoire, les tiers-lieux. On est dans plusieurs types de projets, de projets participatifs d'aménagement d'espace public ou de projets de renouvellement des quartiers. Et on est dans des démarches qui sont relativement nouvelles. Et le fait d'être en lien avec d'autres villes nous permet d'accélérer nos réflexions et de nous inspirer, de dire voilà ce qui a été fait à Valence, on va le tester à Paris. Après, avec ce qu'on a fait à Paris, il y a quelqu'un à Modena qui va le répéter, mais un peu adapté à chaque circonstance, etc. Bon, je pense que j'ai fait la définition. Est-ce que j'ai oublié quelque chose?
Oui, après, moi, ce que je trouve très intéressant dans CivicWise, c'est du coup, CivicWise, c'est le... Enfin, du coup, le lien avec le citoyen. Enfin, du coup, on est tous citoyens dans CivicWise, mais aussi la volonté de rapprocher, le citoyen de l'espace qui l'entoure. Enfin, il y a beaucoup d'architectes dans CivicWise, mais pas que. Et du coup, c'est vraiment l'idée de se réapproprier quelque chose sur lequel finalement jusqu'à maintenant, qui jusqu'à maintenant était plus distant des gens en général. Après donc présentation moi je m'appelle Elena, donc je suis architecte, j'ai fait mes études en Italie, j'ai travaillé en France et je travaille aussi dans le logement social du coup. Voilà.
Moi je m'appelle Liana et dans CivicWise on est un réseau de professionnels, mais ça ne veut pas dire que notre activité principale et au sein de CivicWise. Au sein de CivicWise, on a une activité professionnelle aussi, mais souvent, on voit des personnes qui, chacune, travaillent dans des domaines différents. Bon, dans ton cas, c'est tout. Oui, voilà. Et, alors, moi, je suis Johanna Valero, et je suis architecte aussi. J'ai pas mal travaillé dans l'urbanisme, et je me suis spécialisée dans les démarches participatives. Et, j'ai travaillé pour des projets d'habitat coopératif et de réaménagement d'espaces publics avec une démarche participative. Et oui, vous voulez vous présenter, vous voulez dire vos noms? Si vous voulez faire un tour tout, très vite, juste vos noms ou...
Nadja Godillière, je suis architecte de formation, je suis en thèse et en gros je suis spécialisée pour l'instant dans la robotique architecturale et l'algorithmique pour la conception spatiale.
Moi, c'est Katerina Kuzmenko. Moi, je suis en thèse aussi, ici. Et moi, je travaille sur la performance environnementale de la construction. Et je suis architecte de formation aussi. Et je suis également architecte pratiquant. Donc, je travaille aussi en tant qu'architecte.
Moi, je suis Guillaume et je suis élève en première année à l'École des Ponts.
Moi, je suis Andrés Bedoya, je travaille à la D-School, du coup, voilà. Ça, j'ai me spécialise surtout dans la création des politiques publiques et innovation sociale, surtout en Amérique latine et Espagne et Portugal. Moi, je travaille avec eux.
Moi, je suis Adrien Rigovello, donc je suis organisateur de ça. Et du coup, on a travaillé ensemble avec CivicWise. Donc, je suis membre de CivicWise. J'imagine.
Oui.
Une façon d'une autre.
Oui, j'imagine.
Oui, en fait, CivicWise, pour être membre, il faut juste avoir participé une ou deux fois à nos activités, que les gens finissent par être membres. Parce que comme il n'y a pas une adhésion, c'est plutôt quand les gens commencent à participer régulièrement à des activités, on dit, bon, il est de CivicWise. Et alors, c'est une manière de capter les gens un peu... Oui, un peu caché, parce que... Oui, non, c'est... On fonctionne de manière où il n'y a pas beaucoup d'engagement. Alors, il y a des personnes qui, en période, peut-être, ils s'engagent à participer, après, ils disparaissent, quelqu'un d'autre arrive. Alors, c'est assez dynamique comme système, oui. Oui, mais oui, c'est très ouvert aussi. On a la chance d'être en mode intime. Et ce qu'on vous propose, c'est de faire une conférence qui est un petit peu interactive. Et alors là, vous avez les 5 étapes qu'on a imaginées pour décortiquer les communs urbains. On a trouvé un titre en anglais, ça serait Unfolding Urban Commons. On va faire ça aujourd'hui. Et pour commencer, on va parler de la propriété. Et vous pouvez vous mettre par groupe de 2. OK. Oui. Alors, on a une question. Et c'est, on imagine, on part de l'hypothèse où c'est très bien d'avoir la propriété privée. J'en sais très bien d'avoir ce concept, d'avoir la propriété publique et d'avoir la notion de bien commun. On imagine que c'est très bien et vous allez devoir expliquer pourquoi. Pourquoi c'est intéressant d'avoir ces notions. Alors, on en a 3, vous pouvez choisir. Soit réfléchir à la propriété publique, soit à la propriété privée, soit au bien commun. Est-ce que vous avez des préférences?
J'ai une préférence.
Oui. Ok, alors vous êtes bien commun. Et vous pouvez soit choisir l'une des 2, soit prendre les 2. Public-privé, soit prendre seulement une. Ok, privé. La question, c'est pourquoi c'est très cool d'avoir la propriété privée. C'est pas... Non, mais après, vous avez le droit de faire une critique. Mais on ne veut pas partir d'une critique a priori. C'est voir quels sont les points intéressants de cette figure juridique ou de cette notion philosophique. Et ensuite, vous allez nous l'expliquer. Vous avez genre 3 minutes ou, je sais pas, 4 minutes. Vous avez un peu de temps pour discuter entre vous. Et après, on va vous demander est-ce que c'est bon et on va vous couper. Oui, c'est et pourquoi c'est intéressant. Oui.
Oui, du coup, vous, ça peut être qu'est-ce que c'est le bien commun pour vous déjà. Enfin, voilà. Et ou qu'est-ce que ça vous évoque même la notion de bien commun. Et vous, ça va être pourquoi. Pourquoi la propriété privée.
Et comme vous n'avez pas beaucoup de temps, ça suffit que vous sortez des mots clés. Et ensuite, vous pouvez nous les expliquer un peu, mais c'est surtout de voir quelles sont les premières choses qui vous viennent en tête. Ça nous permet aussi de voir quelles sont votre approche. Voilà. Alors, c'est parti. Vous êtes prêts? Comme ça, on est dans une dynamique. Sinon, Alors, votre équipe, vous êtes Nadja et Adrien. Et, est-ce que vous pourriez nous dire en deux mots ce que vous avez découvert en discutant? C'est...
Tout à fait, très cher Yona.
Merci. Je vais passer les slides.
Donc, il nous a semblé que la propriété privée était très utile et nécessaire pour fixer des frontières de liberté et de responsabilité pour éviter des conflits ouverts. Et bien, voilà. Ceci appartient à un tel, il en est responsable en fait, que ce soit un terrain ou un objet. J'ai noté, donc, on parlait d'émulation sociétale en fait. Que tout le monde est poussé à agir pour le plus grand bien commun dans la loi de la libre concurrence. Que ça favorise aussi des espèces de micro-échanges entre les agents, que ce soit pour des objets comme sur Etsy, par exemple, si ça existe encore, ou Le Bon Coin.
J'ai pas compris, sourd.
Sur Etsy, enfin n'importe quoi, Le Bon Coin, eBay par exemple, qui illustre bien ça en fait, sans avoir, ou en limitant peut-être, alors c'est là qu'est la limite théorique, mais en limitant peut-être le fait d'avoir un système hiérarchisé de rois, de valets, enfin de, je sais pas comment, de lords, etc., qui vont déléguer petit à petit, mais qui centralisent en fait quelque part un système. Donc en fait, est-ce qu'on n'est pas déjà en fait dans un système anarchique?
Très intéressant.
Et la notion d'individualisation nécessaire, est-ce que c'était lié à la responsabilité?
Non, c'était lié au... c'était lié au fait que dans une communauté, il y a un besoin d'individualisation des composants et que la propriété privée, ça peut aussi servir cet objectif-là. Je pense que quand on parlait de limite, il y a aussi vraiment une notion de limite de la propriété privée dans le sens où elle peut être bénéfique seulement à partir du moment où on lui instaure une limite peut-être relativement basse dans un certain sens du terme.
D'accord, super. Et, si vous voulez, on parle un peu de la propriété privée, ensuite on parle de la publique. Oui, nous on a fait, ça s'entend, oui je pense, non? Nous on a fait un exercice similaire au vôtre, genre on s'est mis à discuter entre nous, on s'est mis à lire et à avoir des différentes définitions. Et c'est ce qu'on a vu par rapport à la propriété privée, et c'est voulu que ça soit un peu rempli, c'est le slide. Parce que, oui, non, c'est l'idée de, qu'on est en train de vraiment de déplier quelque chose et de voir quelles sont les parties qui sont à l'intérieur. Et il y a une dimension qui est genre le sens initial, c'est un droit, c'est une liberté. La propriété privée, c'est la liberté de disposer de quelque chose. Et ça assure d'une certaine manière la permanence des conditions de vie. Si par exemple j'ai une maison et je sais que je vais la garder, ça me donne une sorte de garantie que je vais pouvoir vivre demain. C'est une protection de la vie quelque part. Et ce droit d'usage est un droit qui existe dans beaucoup de culture et tout, mais tel qu'on l'entend aujourd'hui, il y a d'autres droits qui sont ensemble. C'est pas que les droits d'usage. Il y a beaucoup d'autres droits. C'est pour ça qu'on dit que la propriété privée, c'est une concentration de plusieurs droits. C'est le droit d'utiliser, mais aussi le droit de vendre, de donner, de transmettre, de modifier et aussi de détruire. Et alors, là, c'est là où on peut arriver à des situations qui sont pas désirables. S'il y a certains moments où on ne voudrait pas que les gens détruisent un certain bien, on leur dirait « Ok, vous pouvez l'utiliser, mais pas le détruire. » Bon, ça, c'est... On a voulu, nous aussi, chercher les parties positives. Et après, en contraposition à ça, il y a le fait qu'on peut accumuler des biens. Et alors, il y a tout ce qui a à voir avec le marché, avec le capitalisme et tout ça. C'est le fait qu'on puisse accumuler des biens, cumulé de biens, oui. Ça permet la spéculation et ça permet toute une autre dimension qui est très éloignée de l'usager et du bien en soi. Et la spéculation financière, c'est quelque chose qui, c'est toute une construction qui est édifiée sur la propriété. Et là, on est complètement dans une autre dimension. Alors, on voulait dire que la propriété privée, elle a les deux dimensions. Mais il y a cette dimension de la spéculation et du marché qui a fait parfois que ça s'éloigne peut-être d'un sens initial. Et après, une chose qu'on a lu aussi, on a vu, c'est qu'il y a la notion d'expropriation. Parce qu'on dit, OK, le droit défend notre bien, on va continuer à avoir notre maison, mais les systèmes financiers, tout un tas d'aspects externes permettent d'exproprier ces biens. Et là, on voit comme pendant les crises, il y a, si on fait monter les prix, et on peut arriver à des situations où les gens sont obligés de vendre ou ne peuvent pas payer des prêts. On a vu beaucoup d'exemples comme ça. Mais ce qu'on veut dire, c'est que même si la propriété privée semble quelque chose inviolable, en fait, le marché a généré des systèmes qui permettent de déposséder les individus. Et alors, on pourrait dire qu'il y a la propriété privée des populations, et ça serait intéressant que tout le monde puisse avoir une propriété. Mais en fait, même ça, ce n'est pas garanti avec la propriété privée, parce qu'il y a ces systèmes d'expropriation. Voilà. C'est à peu près ça ce que je voulais dire. Et oui, on a parlé là d'une notion plutôt abstraite, mais il y a l'outil juridique en soi. C'est toujours intéressant de savoir que pour tous ces thèmes, on a la notion philosophique et l'outil juridique. Et parfois, il y a une relation directe et parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, la notion philosophique va très loin et l'outil juridique, peut-être, il est très précaire. Voilà. Bon, c'est fait. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire ou est-ce que vous avez des questions ou des sujets qui ne sont pas clairs ou...
Et ouais, du coup, dans cette définition de propriété privée publique, il y a aussi le rapport, entre l'aspect philosophique et l'aspect du droit. Il y a le rapport entre, c'est un rapport de pouvoir finalement. Et pour nous, c'était un peu le départ de la réflexion, c'est propriété privée, propriété publique, État, entreprise. Et finalement, dans le droit, par exemple, actuellement, tant qu'il y avait un État fort, le droit devait défendre, on va dire, la propriété privée. À un moment où finalement, l'équilibre change, finalement, il y a peut-être des lacunes de droit, on va dire, où finalement le droit doit être modifié pour défendre aussi tout ce qui est propriété publique, en fait. Et du coup, c'est aussi une question de rapport de force. Et c'est là où on voit que cette notion philosophique, elle est rattrapée par tout ce qui est lié au droit.
La réflexion que je me faisais juste avant que tu parles, c'est est-ce que ça revient pas à dire qu'à une situation donnée, de quel outil juridique la propriété privée, c'est indissociable et desquels ça peut être dissocié?
Oui, moi je pense que c'est d'abord quelle est la finalité, qu'est-ce que ce qu'on souhaite ou qu'est-ce que ce qu'on veut défendre ou protéger, préserver, et ensuite de quel outil on s'est doté pour le faire. Et je pense que à une époque, l'outil qui existait était en lien avec la finalité, alors il n'y avait pas de sujet, pas de conflit. Mais aujourd'hui, on peut dire que d'une certaine manière, la propriété privée a échoué dans la finalité de protéger la vie, disons, ou les conditions de vie. Par contre, si la finalité avait été de créer le système capitaliste, on peut dire que ça n'a pas vraiment échoué, ça a marché. Mais nous, là, on est en train de discuter sur quelles sont les finalités pour voir ensuite si les finalités sont en lien avec l'outil dont on s'est doté. Voilà. Alors, si vous voulez, vous pouvez continuer à parler sur la propriété publique. Pour voir, parce que vous aviez pas la propriété publique. La propriété publique est à nous. C'est... oui, est-ce que tu veux dire quelque chose de la propriété publique? Oui.
Alors, la propriété publique. Du coup, la propriété publique,
Enfin, quand on a réfléchi à ça, on s'est dit la propriété privée par rapport à la propriété publique. Finalement, qu'est-ce que c'est la propriété publique et pourquoi est-ce qu'on a, enfin, ce besoin de parler de biens communs? Et du coup, on repart un peu sur cette contraposition entre État et entreprise et sur le fait, finalement, est-ce que propriété publique, c'est tout le monde ou est-ce que propriété publique, c'est personne? Enfin, est-ce que des toilettes publiques, c'est les toilettes de tout le monde ou est-ce que des toilettes publiques, c'est les toilettes où je peux faire n'importe quoi parce que de toute façon, c'est à personne?
La différence entre propriété publique et privée, c'est que dans le privé, c'est la même personne qui en bénéficie, qui le gère. Et dans le cadre public, c'est un bien qui est censé être accessible à tous les citoyens, et mais par contre qui n'est pas géré par les citoyens, mais par une entité, oui, qui est l'État ou une mairie. Et ces entités, elles veillent pour la préservation de ce bien et pour assurer l'accès de ce bien. Alors l'État a une responsabilité. C'est pas qu'un droit ou une liberté, c'est une responsabilité de gérer le bien et de le conserver. Et là, la question se pose, est-ce que aujourd'hui, on voit que, avec les lois qu'on a et les systèmes dans lesquels on est, est-ce que l'État a réussi à accomplir cette mission? C'est bon.
Et. Tu veux voir si c'est l'or? Le rôle de l'État, enfin la question qu'on s'est posée aussi, c'est que du coup il y a du droit de la propriété privée, donc pour défendre par exemple les privés contre une expropriation qui serait considérée injuste de la part de l'État mais finalement maintenant dans la société où on est actuellement, tout ce qui est démantèlement de biens qui finalement jusqu'à maintenant étaient publics. Est-ce qu'il n'y a pas une lacune dans le droit parce que, à part la notion du coup d'utilité publique, on n'a pas une défense du droit de la propriété publique, on va dire. Et du coup, tout ce qui est, par exemple, pour moi actuellement, au niveau des villes, tous les montages qui existent actuellement, comme les partenariats publics-privés ou voilà, enfin en fait, la façon dont finalement l'État cède des biens publics, oui, qui peuvent être les terrains, mais qui peuvent être aussi, les universités, l'eau publique, du coup, ou une série de biens, des ressources qui, jusqu'à maintenant, étaient gérées par l'État. Est-ce que cette propriété publique, qui est-ce qui la défend, quoi?
C'est ouvert?
Bon, OK. Moi, ça vient à l'esprit, penser aussi, quels sont les... c'est rien à voir avec les commentaires d'Adrien, mais de penser ces mots des frontières entre la sphère publique et privée et quelles sont les frictions qui existent entre les deux. Et, parce que là, dans les frontières, on peut très bien identifier quelles sont les failles de système ou bien les gènes pour les gens. Donc ça m'a fait penser à cette frontière, par exemple, qu'on passe de la porte, quand on rentre chez nous et quand on part dans les domaines publics, quels sont les gens qui en sont, enfin, physiquement vraiment, dans une espèce de, un changement d'état d'esprit, un changement d'espace, enfin, je sais pas comment expliquer, mais penser à ça, ça peut être intéressant aussi pour comprendre comment on se sent par rapport à ce qu'un toilette publique appartient à la personne, enfin, vraiment, ou à moi. C'est où que j'ai pas cette stade mental, ou d'état d'esprit. C'est où que je me dis, en fait, là, je suis dans l'espace qui appartient à personne.
On a fait une rencontre il y a peut-être un mois, et la question c'était comment se réapproprier l'espace public. Et dans les discussions, il y a une fille qui a dit que pour elle, l'espace public est défini pas vraiment pour la configuration. Physique, mais plutôt par les gens qui habitent là-bas. C'est-à-dire dans un quartier, la place du quartier, et les différences selon les rapports qu'il y a entre les gens du quartier. Si les gens du quartier se connaissent, si on a une sensation de sécurité parce que on le perçoit qu'il y a pas, les gens sont bienveillants, alors le lieu, il devient beaucoup plus agréable que si, par exemple, on est dans un lieu où peut-être il n'y a pas beaucoup de monde, où les gens n'utilisent pas l'espace. public, il se le sent pas. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de veiller à aménager un bel espace et de construire des belles choses, mais de penser à comment la société est structurée. Et la structuration de la société, c'est quelque chose qui semble très mystérieux, très flou, mais finalement, il y a des manières de structurer une société. Si dans un quartier, par exemple, il y a des lieux de rencontre, il y a tout un tas de manières de favoriser ce qu'on appelle la cohésion sociale. Après, les mots sont, il y a des mots qu'on a un peu vidés de signification, mais c'est qu'il y a une structuration de la société. Et là, je pense que on revient à votre sujet des communs, parce que l'espace public devient plutôt un espace commun. C'est pas le fait qu'il est public, parce que le public, il est très loin. C'est l'administration publique, ça donne pas l'âme du lieu.
Pour moi, c'est aussi lié du coup au point, au plaisir d'agir, on va dire. Enfin, en fait, d'être acteur sur cet espace public ou sur cette propriété publique qu'on aurait tous. Donc, si quelque chose de public, c'est quelque chose dont je suis en partie propriétaire, alors le fait de pouvoir agir dessus, ça fait que je sens que j'ai cette propriété. Alors que finalement, actuellement, on a plutôt tendance à être spectateur. Donc finalement, pour moi, après, c'est mon opinion. Mais du coup, sur la notion de du plaisir d'agir et de participer, et finalement, c'est en participant qu'on se réapproprie cet espace public.
On est en train de dévoiler tous les prochaines slides, mais c'est pas grave. Non, parce qu'une dernière chose que je dirais, c'est que la question est quel est le rapport entre l'individu et l'État. Si le rapport entre l'individu et l'État est... c'est un rapport où il y a une communication possible. C'est différent que dans un rapport où... En fait, je pense que la propriété publique, par exemple, quand on ne respecte pas les toilettes publiques, c'est parce qu'en fait, on ne s'identifie pas à l'État. Je pense qu'il y a un rapport avec l'État qui est très loin de l'idéal quand on parle de l'État. C'est une figure très... positive, non, qui veille à conserver, mais à la fin, on ne l'aperçoit pas comme ça toujours. Tu es d'accord?
Oui, non, je pense que... J'ai trouvé des citoyens, par exemple, qui m'ont dit on fait des toilettes, je m'en fous des toilettes parce qu'en fait, je paye déjà mes impôts, c'est à l'État de le régler. Donc là, je ne vois pas une déconnexion avec l'État. Je vois que les gens identifient une responsabilité avec leur espace public, mais qu'ils disent, en fait, du fait que je paye mes impôts et que je vote, je suis déjà en train de faire ma partie. Oui. Et donc c'est aussi...
Oui, tu as raison. En fait, tu as raison parce que la question qu'on a derrière ça, c'est qu'est-ce qu'on considère que c'est la responsabilité de l'État. Mais après, quand l'État n'est pas en mesure ou ne veut pas... ou ne peut pas, j'en sais rien, accomplir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va se plaindre pour dire, voilà, vous n'avez pas... Bon.
Et après, pour moi, ça, c'est aussi lié à ce que je disais tout à l'heure, du fait d'être toujours plus spectateur qu'acteur, et au fait que finalement, ça, pour moi, c'est un peu une dérive du capitalisme ou du système marchand en général. On considère qu'en payant les impôts, on a fait notre devoir en tant que citoyen. Alors que, et finalement, ça, c'est quelque chose qu'à mon avis, on retrouve aussi dans les modèles des partis politiques. Je pense que historiquement, pour appartenir à un parti politique, il fallait, avoir une éducation. Enfin, il y avait un parcours de formation et éventuellement une, enfin, ce qui faisait que tu t'identifiais à un parti politique, c'était un parcours de formation et une série de devoirs envers le parti auquel tu appartenais. Ou au moins, par exemple, du coup, je parle des trucs que j'ai un peu... Enfin, dans des mouvements comme les Black Panthers ou à mon avis, même dans des mouvements politiques plus gros, c'était... pour appartenir à un parti, il fallait faire ça. Maintenant, à l'heure actuelle, dans la plupart des partis politiques, et c'est quelque chose qu'on considère tout à fait normal... L'adhésion, ou même dans une association, en fait, l'adhésion, elle se fait par, la contribution monétaire. Mais du coup, le fait de remplacer, l'adhésion par la participation, par une valeur monétaire, finalement, pour moi, c'est un peu un échec de la participation. Enfin, ça veut dire qu'on considère que la participation, elle peut être remplacée par de l'argent. Mais du coup, de toute façon, pour moi, ça, c'est pas être acteur, c'est être... du coup, on est remis dans un rôle de spectateur où finalement, l'argent légitime le fait qu'on fait rien. Mais voilà.
T'as fait un petit spoiler de tout là, mais c'est pas grave. Non, mais c'est très bien parce que là, on continue et vous allez revoir un peu ces sujets et on va en discuter. Alors, on va vous donner la parole, vous.
Je vais citer du coup les trois thèses qu'on a pu noter. Donc la première, c'est que le bien commun, c'est quelque chose dont tout le monde peut bénéficier. Après, c'est le rapport, ça appartient à tout le monde et à personne en même temps, ce qui a été dit tout à l'heure. Et moi, comme je suis très communiste dans mes visions politiques et sociales, moi, j'ai dit que bien commun, c'est surtout quelque chose qui est au niveau d'organisation sociale, gouvernementale et surtout économique. Parce que pour moi, s'il n'y a pas cette organisation-là qui est faite à l'échelle de l'État, c'est que bien privé. Et que le fait d'existence de bien commun, en fait, ça définit déjà l'organisation sociale qui passe par l'organisation économique de la société en question. Je ne vais pas développer la pensée marxiste, mais c'est globalement c'est ça qui est, je pense.
Est-ce que vous voulez rajouter
peut-être oui, avec cette notion de ce qui appartient à tout le monde et à personne. Et aussi, ils vont ajouter avec la notion de qu'on peut se bénéficier de biens communs. Je pense que faire aussi l'analogie avec dans les communautés indigènes, les biens communs n'est pas lié juste à la terre, mais aussi à la culture, à le territoire en sens large, de comment je m'identifie avec l'espace, mais aussi jusqu'à où ça va, mon espace, on va... Et ça fait partie du bien commun. Et que la construction des biens communs, je voulais ajouter par rapport à ce qu'on disait maintenant des associations et tout ça, le fait de payer peut détruire les biens communs, parce que payer, par exemple, si pour moi 5 euros c'est pas la même chose que pour la personne d'à côté, c'est-à-dire moi je dois dépenser plus de temps de vie pour gagner ces 5 euros, je suis en train de dire que j'étais dans 5 euros, c'est j'ai juste à donner 5 minutes de ma vie, donc toi tu dois donner 2 heures. Là, on n'est pas dans un pied d'égalité pour la construction d'un bien commun. Dans les communautés indigènes, quoi qu'il en soit, si tu es le président ou bien le personne, enfin, entre guillemets, tu n'as aucune hiérarchie, tu fais tes 2 heures ou ta famille doit faire tes 2-3 heures. Et du coup, ce sont des choses qui aussi sont intéressantes à voir dans les biens communs et aussi les frontières entre où tu t'arrêtes le bien commun et c'est autre chose, quoi.
Est-ce que vous avez une grande envie de parler ou...
Il semble qu'il y a une question qui... j'ai cru que tu allais en parler, Katia. Mais... j'ai eu peur. Mais du coup, je vais la mettre sur la table. Qui est la question de l'engagement. Enfin, c'est la question justement sur le fait de payer... C'est un peu la délégation de confiance en fait, dans un système plus grand. Quand on parlait tout à l'heure de la pseudo-anarchie du système libéral, en fait, a priori, elle n'existe pas en réalité, du coup. Puisque du coup, on a confiance tous dans un système de croyance, qui est l'argent, en fait, et d'autres, mais a priori celui-ci. Et du coup, il y a un truc qui me semble essentiel aussi dans la notion de bien commun. Qu'est-ce qui définit un bien commun? C'est aussi le fait que n'importe qui puisse s'engager avec. Enfin, que les personnes qui sont a priori même plutôt sur un terroir puissent s'engager avec l'objet, et notamment un objet culturel, en fait. Pouvoir l'amender, le modifier, que ce soit une tradition ou, par exemple, apprendre à cuisiner, un plat traditionnel, quoi, en fait. Et éventuellement le comprendre suffisamment pour le modifier, pour cultiver éventuellement tout ce qui tourne autour, tout le système de valeur. Et je trouve que cette question de l'agentivité, c'est une question, à mon avis, qui divise pas mal, en tout cas avec mes amis communistes. Généralement, ça divise pas mal, puisque en fait, la question elle est sur est-ce que c'est la faute au système ou est-ce que c'est la faute aux individus qui soutiennent le système. Alors, spoiler alert, du coup, je soutiens que c'est plutôt la, qu'on est tous responsables du coup de faire son petit truc à sa petite échelle. Pour, moi, je suis du genre à dire qu'il faut fermer les robinets. Et il y en a d'autres qui vont dire, oui, mais ce qu'il faudrait, c'est que l'État ferme les robinets. Enfin bon, c'est une discussion qui n'est pas forcément beaucoup de sens. Dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est avancer tous dans la même direction, j'imagine. Mais bon, j'imagine que c'est une question, en fait.
Ok, je vais commencer notre truc à partir de ce que vous avez dit. Déjà, une petite précision. Et on peut parler de bien commun et parler de biens tangibles ou intangibles. C'était aussi le cas pour les biens publics ou privés, mais on n'en avait pas parlé encore. On a des biens qui sont des physiques, genre la terre ou les bâtiments, ou des objets, des outils, et des biens qui sont intangibles, c'est des connaissances, c'est des recettes, c'est des œuvres d'art. Il y a tout un tas de biens qui sont pas physiques, et ces biens qui ne sont pas physiques, ils ont un avantage, et qu'ils ne s'épuisent pas. Par exemple, une chanson, je peux la chanter beaucoup de fois, et je n'empêche pas Elena de la chanter. Ils sont inépuisables. Et alors, tous ces biens qui sont intangibles, les biens communs intangibles, ils fonctionnent très bien, parce que... Ciao. Il colle bien avec les principes des biens communs. Bon, alors, et bienvenue, Laure.
Et...
Alors, on voulait parler de deux traditions, soi-disant, ou deux approches différentes des biens communs. Il y a une approche qui associe les biens communs aux biens de l'humanité qui ne peuvent pas, qui doivent être préservés, qui ne peuvent pas être détruits ou être possédés parce qu'ils appartiennent à tout le monde. Et il y a une autre approche qui associe les biens communs aux ressources qui sont nécessaires pour qu'une société puisse fonctionner. Ça, c'est... En fait, il y a des approches très différentes. Il y a des pensées qui ont convergé dans les biens communs. Et là, il y a un écart très grand entre ce qui est la notion philosophique et la notion juridique. Parce que quand on parle de biens communs, on peut dire, moi je pense que l'air est un bien commun. On ne peut pas posséder l'air. Mais en même temps, c'est... Bon, déjà l'air, c'est... Oui, juridiquement... Oui,
du coup, juridiquement, finalement, il y a moyen de posséder l'air. Parce que finalement, tout ce qui est... Enfin, du coup, je reparle de foncier. Mais tout ce qui est... la division en volume ou enfin voilà, je sais même plus comment ça s'appelle aux États-Unis, mais en France la division en volume, finalement on a trouvé le moyen de juridiquement de posséder de l'air, oui, donc voilà.
Et si on parle de manière philosophique, on pourrait dire les océans appartiennent à personne, et comme ça avec les forêts et tout ça. Alors ça, c'est une vision qui... J'ai dit qu'elle est philosophique, je ne sais pas comment l'appeler, mais en tout cas, elle n'est pas soutenue par un cadre juridique. Alors, ça, c'est une approche. Après, il y a l'approche aussi très philosophique qui dit que ce qui nous permet de vivre devrait être un bien commun, et notamment l'eau. C'est un exemple. Genre, l'eau ne devrait pas être un bien privé. Ça, c'est un autre truc. Et après, il y a, dans la tradition de la loi, ce qui a été considéré comme étant des biens communaux, ou qui est en fait une quantité très réduite des biens, mais les chemins communaux, tout ça, ça c'est là où le juridique appuie la notion de bien commun. Et après, si tu veux, tu peux expliquer pour le truc des enclosures.
Oui, du coup, sur la notion de bien commun, pour nous, mais je pense en général, un point de départ, c'était... du coup de la réflexion, mais aussi de qu'est-ce que c'est un bien commun. Il y a les commons en Angleterre, et du coup au XVIe siècle, c'était né avant, quand les propriétaires terriens ont décidé que finalement c'était plus rentable de fermer leur terrain pour avoir une meilleure production au niveau de la laine, ou voilà, et que les gens qui finalement, les communautés autour de ces terrains qui utilisaient les ressources, donc le bois, le miel, des ressources en fait auxquelles ils avaient accès sur ces terrains, en ont été privés. Donc voilà, c'était les enclosures, quoi. Mais du coup, ça c'est. Du coup, ça a été, un gros mouvement en Angleterre. Du coup, Marx, il en parle, je crois. Enfin, et du coup, c'est intéressant parce que finalement, on se rend compte que peut-être qu'un bien commun, c'est un bien qui peut être utilisé par plusieurs personnes, mais qui est quand même susceptible à la vulnérabilité d'être, d'être fermé, d'être réapproprié par quelqu'un d'autre. Et donc, par exemple, des terres où finalement un jour quelqu'un arrive et dit voilà, ça c'est à moi.
On est parti un peu à l'inverse parce qu'on a parlé des questions très générales. Si on veut définir ce qui est un bien commun, c'est un bien qui est géré ou qui est. Où on décide comment ça fonctionne. Il est géré par une communauté. Et ça, c'est. C'est une particularité parce que c'est géré par une instance d'organisation qui est intermédiaire. C'est pas l'État, c'est pas l'individu, c'est pas le petit groupe d'individus. Et alors je vais anticiper ce qu'on va dire après en parlant de communauté. Mais en fait, c'est très difficile de parler de bien commun sans parler de communauté. C'est deux notions qui sont liées, parce qu'on parle de bien commun parce qu'il y a derrière une communauté qui est capable de la gérer, de s'en occuper. Et là, on est assez proche des modes d'organisation. Tu parlais tout à l'heure des indigènes, qui en fait, c'était des groupes de personnes qui s'occupaient d'un espace. Il n'y a pas la notion de propriété. D'exploitation c'est plutôt de préservation, d'usage et de gestion.
Ah d'accord, c'est pour ça. J'avais pas prévu en fait de prendre la parole, mais bonsoir. Je m'appelle Laure, je fais partie de CivicWise. De formation, je suis architecte urbaniste. J'ai principalement travaillé sur les questions d'habitat participatif en tant qu'accompagnatrice de projet. Et actuellement, je travaille, donc je suis chargée de mission Cité Demain dans une collectivité. Et j'accompagne en fait un projet de participation citoyenne dans un quartier à fort taux d'habitat social. Voilà. C'est bon comme présentation, ça suffit.
C'est parfait. Ok. Alors, bon, je pense qu'on pourrait faire un petit moment de virage dans la présentation parce que.
Je peux juste réagir.
Oui, bien sûr.
Rapidement, ce que vous venez de dire parce que j'avais une interrogation sur les certains termes. Donc, par exemple, le fait que bien commun, c'est communauté. Je pense que c'est un point de vue parce que, bien commun, ça peut être aussi le bien qui est communisé, en fait. Oui, donc c'est-à-dire qui appartient à la communauté et donc, du coup, qui n'est pas forcément géré par communauté. Mais la question, c'est comment tu répartis sa valeur parmi la communauté, qui est encore une fois la question économique, je trouve.
Est-ce qu'on peut donner des exemples? Parce que moi, je pense que là, on a peut-être assez parlé à mots très abstraits. Je pense que ça serait intéressant de parler des exemples.
Ok, mais si la communauté, il fait 3 millions de personnes.
Oui.
Oui, donc clairement, le champ, il ne peut pas être géré par 3 millions de personnes. Donc la question, c'est comment au niveau de l'organisation sociale, on fait en sorte que c'est toujours le bien commun.
Oui, et là, la question est qu'est-ce que c'est qu'une communauté? Alors,
oui, et du coup, qui revient à la question clé, c'est que qu'est-ce qu'on considère comme communauté? Est-ce que l'État, c'est une communauté? Est-ce que la nation, c'est une communauté? Est-ce que les Juifs, qu'ils n'avaient pas ni l'État, ni le territoire, c'était une communauté? Donc,
Alors, nous, on est parti dans une interprétation de toutes ces questions qui sont orientées à pouvoir parler des communs urbains. Et on s'est aussi inspiré des différentes approches des personnes qui considèrent que la communauté est un groupe de personnes où on entretient des rapports de confiance, par exemple, où on a des liens qui ne sont pas des liens si forts que les liens d'une famille ou le lien qu'on a avec les amis, même avec la famille étendue ou les amis. C'est souvent des personnes qu'on connaît, mais on n'a pas forcément un lien très fort, mais il y a ces rapports de confiance, il y a une sorte d'identification entre les personnes et une sorte de partage des codes, des valeurs. Alors, dans cette manière d'entendre la communauté, tous les Juifs ne sont pas en communauté. Par contre, on pourrait arriver à dire peut-être que la communauté juive de Paris est une communauté. Si jamais ça existe.
Donc c'est territorial, en fait.
C'est
le groupe des gens qui habitent sur le même territoire.
Alors, ça, c'est le sens originaire. Après, c'est vrai que, par exemple, avec Internet et tout ça, on est dans une compréhension de la communauté qui est délocalisée. Parce qu'à l'origine, c'était situé. C'était dans un territoire. Mais après, c'est vrai que aujourd'hui, on arrive à l'utiliser dans une autre. Mais si vous voulez, on essaye de faire le contour de ce qui est une communauté, genre, selon notre approche. Parce que nous, on a identifié on a fait ce fil conducteur, soi-disant, parce qu'on considère que la communauté a des mécanismes d'autogestion. On considère que la communauté, c'est un lieu où on y est en tant qu'individu, on y est par choix, et on y est parce qu'on est actif au sein de la communauté. Être actif, ça ne veut pas dire avoir des obligations énormes, mais on y est activement. Et après, on voit aussi la communauté comme un lieu ouvert. C'est-à-dire, on peut être dans une communauté et après en sortir. Elle a un périmètre, mais le périmètre, c'est comme si elle s'effaçait à un moment donné. C'est pas vraiment une. C'est pas tout est dedans, tout est dehors. Et oui, vas-y.
Et du coup, c'est un peu ce qu'on se disait. Je pense que c'est aussi lié, du coup, au fait d'avoir une vision ou une pensée ou quelque chose, en fait, qu'on a en commun. Et du coup, par rapport à ce que tu demandais sur le fait de, est-ce que pour être, enfin, du coup, là, je m'en rappelle vaguement, mais c'était, est-ce que pour appartenir à la communauté, il faut que je cultive le champ. Finalement, faut pas être forcément acteur ou forcément participer à tout, mais faut être conscient de ce qui se passe, à mon avis. Enfin, du coup, ça c'est, et enfin, c'est ce qu'on se disait. Faut être conscient de ce qui se passe et en fait adhérer à une, du coup, à l'idée de la communauté. Enfin. Ou au code, en fait, au code que se donne la communauté. Enfin, je pense qu'il y a des codes, il y a des frontières qu'on s'imagine. Enfin, il y a une espèce de vision commune qui fait que qu'on est une communauté. Mais du coup, ça peut être étendu, enfin, au-delà d'un territoire géographique et d'une échelle, en fait. Et par exemple, pour moi, il y a l'exemple. Enfin, du coup, quand on reparle des biens communs. On parlait du climat tout à l'heure et du fait que maintenant, avec le réchauffement climatique, on a l'impression qu'il y a une communauté des gens qui veulent défendre les biens communs au niveau mondial, ce qui est, je sais pas, la défense des océans ou des biens naturels qu'on a qui finalement sont pas protégés parce qu'ils sont pas considérés comme une propriété publique et que finalement ils sont exploités par des États ou par des entreprises surexploitées, quoi. Bon.
Oui, je voulais revenir à la notion d'être actif, de participer. Le niveau plus bas de participation, c'est être informé et ne pas contester. Si on est informé et on dit pas non, on accepte, c'est aussi une forme de participation. Si on n'est pas informé, alors c'est impossible qu'on soit en train de participer. Mais par exemple, bon, ça c'est, je suis très influencée par mon expérience, mais à CivicWise, il y a même une ambiguïté entre quartier et communauté, parce qu'en espagnol, quand on parle du quartier, souvent on parle de la communauté. Alors, et pour toutes ces questions de biens communs, urbains et tout ça, ça nous intéresse surtout une communauté qui est peut-être plus réduite que celle dont tu parles. Parce que si tu considères que toute la France est une communauté, tu disais que la communauté peut être très large, non? Tout à l'heure? Oui. Pour nous, la communauté est une unité qui structure la société, qui structure la vie sociale en réunissant des personnes autour d'intérêts communs ou autour d'activités communes, d'un lieu. Et c'est originairement, c'est très lié à la cohabitation. Et on a vu que là, il y a une approche très différente entre la vision anglo-saxonne et la vision française. Et, alors, au niveau de la vision anglo-saxonne, c'est très lié à l'Église, l'origine de la communauté. La communauté était les personnes qui se réunissaient autour d'une église et qui structuraient d'une certaine manière la société, justement parce que c'est des personnes qui se connaissaient de vue et qui partageaient, voilà. Et alors, en France, on a une particularité, et c'est que la notion de communauté, à un moment donné, a été un peu rejetée dans la vision de l'État. Et on avait vu comme quelque chose de positif d'avoir le rapport entre les citoyens et l'État, comme le rapport unique et d'une certaine manière libérateur de tous les rapports qu'il y avait dans la tradition, par exemple dans un village. Il y avait la vision du village qui peut étouffer, où il y a trop de normes, de contraintes, et être un citoyen, d'une certaine manière, te rendait un homme libre, disons, ou toi en contrat avec l'État, mais c'est tout. Alors ça, c'est des visions opposées, de dire la communauté est la base de la société, ou de dire on est dans un système où chaque individu prend ses décisions et le rapport est qu'avec l'État. Bon, là, j'ai parlé de deux visions différentes, et nous, on est plutôt dans l'approche anglo-saxon. Oui, et oui, on a parlé, on a noté la question du communautarisme. On a vu que les derniers, je sais pas, 5-10 ans, la notion de communauté, elle est un peu mieux vue en France que qu'avant. Bon, là, qui est français ici? C'est... Oui. Ok, on a des Français. Ok, c'est bien. Oui, parce que il y a... Ce mot était un peu suspicieux avant, mais aujourd'hui, avec peut-être les communautés numériques et ça, je sais pas, pour vous, est-ce que c'est négatif, le mot communauté? Est-ce que ça a une connotation négative ou pas? Non, pas vraiment.
Par rapport, moi, je pense que c'est surtout quel mot on lui associe. Parce que communauté, juste le mot communauté, peut-être pas, mais c'est vraiment le mot qu'on va mettre à côté qui va faire... un petit peu si on le voit de façon positive ou pas. Communauté, je sais pas, une communauté de internet ou communauté, voilà. Communauté religieuse, déjà, c'est pas forcément vu de la même façon. Je pense que c'est pas le mot communauté, c'est plutôt les représentations qu'on a autour du groupe. Et juste par contre, moi, un des points qui me semble important, c'est aussi de dire que peut-être en tant qu'individu, on peut appartenir à plusieurs communautés différentes. Et c'est vraiment, effectivement, les valeurs partagées, mais également l'action ou le sujet qui fait qu'à un temps donné, on fait partie d'une communauté, mais en fait, on peut en appartenir à plein. Enfin.
Oui, oui, en fait, j'avais envie d'atterrir un peu ça. Parce que je pense qu'à un moment donné, c'est très difficile d'avoir tous ces concepts très abstraits. Et par rapport à juste le communautarisme, juste pour dire, pour moi, c'est une idée reçue. C'est juste un instrument. Pour moi, les communautés ne sont pas fermées, normalement. Il y a cette idée du ghetto très négative, mais en général, les communautés ne sont pas fermées parce que justement, les personnes ont le droit de rentrer, sortir et on appartient à plusieurs communautés. Par exemple, je peux être dans ma ville, je sais pas, jouer au basket, être dans un groupe de gens qui jouent au basket, je peux être, je sais pas, il y a, la communauté est liée au centre d'intérêt, est liée au quartier, est liée à plein de sujets, mais il n'y a pas de contradiction entre être dans le basket et aller à une certaine église. Genre, c'est, il n'y a pas de... Voilà. Et oui, nous, ce qu'on a fait en se posant toutes ces questions, c'est de chercher quels sont les éléments en commun des différents mouvements qui défendent les biens communs urbains. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est donner des exemples de... Ça te dit, c'était ça, non? Le dernier truc qu'on s'était dit, c'est que si les gens sont dans des communautés, c'est parce que ça fait vraiment plaisir d'être dans des communautés. Parce que c'est un lieu d'épanouissement, c'est un lieu de, aussi de protection de l'individu. C'est dans ce monde où l'État n'arrive toujours à assurer tous nos moyens de vie, soi-disant, tous nos aspects de la vie. C'est très rassurant d'avoir des gens autour. Et en fait, c'est la manière spontanée de s'organiser des êtres humains, de fonctionner par... On a, d'une certaine manière, ces cercles de la famille nucléaire et les amis proches. Après, on a la famille étendue et les amis un peu plus éloignés. Et après, on a les connaissances. Et ces connaissances, elles génèrent ces communautés, ces groupes. Et alors, on est dans ces questions parce qu'on veut et on y est de manière active, parce qu'on a ce plaisir, voilà. Et alors, on a trouvé des exemples. Et on peut peut-être ensemble trouver d'autres exemples. Mais il y a un cas qui nous a semblé très intéressant en Espagne. Et, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une organisation qui ressemble un peu au DAL, au droit au logement. C'est le DAL, c'est ça? Oui. Et qui a été créé pour faire face aux expulsions. Ça s'appelle Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Il y a eu à un moment donné beaucoup d'expulsions en Espagne parce que la loi ne défend pas suffisamment le locataire ou le petit propriétaire. Et dès que quelqu'un ne paye pas le loyer ou quelqu'un n'a pas payé à la banque ce qu'elle doit des emprunts, et ils sont expulsés, ils sont mis dans la rue. Et il y a eu un moment où ça a créé une situation très grave, voilà, et les gens se sont réunis pour faire face à ça, et ça a généré dans plusieurs villes des groupes de personnes qui se soutiennent et qui ensuite sont ils ont un rapport entre elles. Oui. Et ça nous semblait un bon exemple parce que ça sort de personnes qui ont un intérêt en commun. Dans ce cas, c'était défendre le droit au logement et qui s'organisent au début de manière spontanée et que une fois ils se sont réunis, ils commencent à mettre certaines règles ou principes pour se constituer et ensuite ils fonctionnent comme des petits assos qui sont en lien avec. Mais je pense que ça serait intéressant de voir qu'est-ce que vous évoque, vous, tout ce qu'on avait dit, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Si vous avez en tête des exemples de communautés autour des biens communs, urbains ou de l'espace public. Ouais.
Ça, c'est nouveau, mais ça m'a fait, quand tu parles de tout ça, ça m'a fait penser... donc, j'habite dans l'ancien... Et un jour, on prenait un verre avec un de mes amis et on discutait de d'aujourd'hui, comment la ultra-droite est en train de prendre. Et on disait, en fait, il y a la déresponsabilisation des gens, mais du coup, on voudrait bien qu'il y ait d'autres types de démocratie et qu'on puisse agir autrement, etc. Et on se disait, oui, mais nous, on est assez pragmatique, du coup, on va pas non plus changer la loi, ni tout ça. Enfin, on n'a pas le temps pour ça. On veut vraiment agir maintenant. Et du coup, on a dit, pourquoi on ne se voit pas demain dans un café, enfin, notre café, et puis on voit comment on peut agir. Du coup, là, on a fait ça. Et depuis, il y a déjà 8 personnes qui se sont rejointes à ce truc-là. Et du coup, les choses qu'on voulait faire, c'était... on s'est posé la question de comment on peut utiliser les ressources qu'on a aujourd'hui. Donc, il y a les ressources qu'on avait, c'était... il y avait les budgets participatifs, plus... nos compétences à nous. Et on a dit, OK, pour avoir des nouvelles formes d'interaction, on a essayé de rejoindre les conseils des quartiers sans succès. Et donc, on a tenté vraiment beaucoup, on est allé et tout. Quand on a finalement... on est allé dans le sein des conseils, l'agenda était prédéfini par les partis politiques. Du coup, c'était pas du tout les besoins du quartier, c'était juste les besoins de l'agenda politique. Du coup, on a dit comment on peut faire. Et du coup, on a commencé nous-mêmes à interviewer des gens et à connaître les quartiers. Et ça nous a donné quelles étaient les problématiques du quartier. Et après, on a commencé à faire des prototypes entre nous dans la cafette. Voilà. Et il y a plus de gens qui sont venus. Et c'est vrai qu'éventuellement, il y a eu des règles qui se sont mises en place sur comment on agit, sur si on fait les choses publiques ou pas. Il y avait plein de choses qui venaient de l'expérience de chacun. Donc, par exemple, moi, c'est vrai, ça m'est arrivé d'avoir fait un projet social. Je le communiquais beaucoup et les gens qui, les parties prenantes qui étaient blessées par ces projets, entre guillemets, l'ont tué avec des trucs médiatiques, des lobbies ou des choses comme ça. Du coup, on a décidé de le garder très restreint. Enfin, je veux dire, pas communiquer. Mais tout le monde pouvait venir, mais c'était pas. Il y a eu aussi des partis politiques qui ont dit, ah, en fait, pour les élections qui viennent, on pourra peut-être reprendre ça, et puis. Et là, on a dit non, on les protège, parce que sinon. Du coup, ça devient comme un espèce de bien commun. Et si, je sais pas si c'est la connaissance qu'on a créée autour de comment agir dans les quartiers, ou si c'est aussi ces drèves au mythe et on peut travailler autrement avec les éléments qu'on a. Mais on voulait pas faire une révolution, c'est une réforme. C'était pas révolutionner complètement la manière de faire, mais c'était de s'adosser à ce qui existe et puis faire autrement. Du coup, je sais pas si ça. Donc c'est maintenant une communauté, parce que j'ai posé la question, mais pourquoi vous venez encore? Et c'était ça. Je disais, moi, là, je me sens en sécurité, je sais que c'est la première fois en 5 ans que j'ai connu mon quartier. En venant ici, il y a 3 personnes qui m'ont salué. C'est génial. Enfin, il y avait des plaisirs de juste faire partie de la. Donc, ça devient une communauté. Voilà, ça c'est un peu l'exemple.
Oui, moi ce que je trouve très intéressant de la communauté, c'est que il y a la partie plus visible qui est la partie collective, mais il y a une partie individuelle qui est très forte et que c'est vraiment un lieu d'épanouissement. Et on a souvent des idées ou des envies, mais les mettre en place seul, c'est vraiment difficile. Et là, on est. Le fait que ça soit un collectif, ça ne veut pas dire que les énergies sont plates. Souvent, il y a une personne que tout. Bon, on peut avoir 4 personnes qui soutiennent une personne parce qu'elle a la bonne idée. Et ensuite, c'est l'autre personne qui est soutenue. C'est des dynamiques qui se mettent en place qui sont finalement très complexes, de manière spontanée, mais qui permettent de faire monter chacune des personnes. En fait, il y a une sorte de. On pousse vers le haut tous les individus. C'est pas que la question collective va nous rendre plus homogènes ou va nous effacer. C'est le contraire. Le collectif permet de faire émerger, de, oui.
Je voulais réagir à ce que tu as dit. En fait, je trouvais ça assez intéressant le fait que tu soulèves, le questionnement de savoir, est-ce que c'est le sujet même de faire changer le quartier et en tout cas réfléchir à une nouvelle façon de le gouverner ou, le fait de travailler différemment entre nous qui nous pousse à faire ce projet. Et moi, je pense qu'il y a vraiment un lien intrinsèque quand même entre l'intérêt général, le bien commun et la gouvernance interne que se donnent les personnes pour le protéger. Parce que d'une certaine façon, enfin là, tu as montré l'exemple de personnes qui ont saboté un projet parce que voilà, c'était pas d'accord sur le sujet. À l'interne d'un groupe, on peut avoir ces mêmes mécanismes qui se mettent en place au fur et à mesure si on n'a pas une gouvernance équitable et qu'il y a quelqu'un qui prend un peu le lead et du coup d'autres personnes qui sont frustrées. Enfin, ça peut créer des sentiments de. Enfin, c'est négatif et du coup, tout ce qu'on connaît dans des organisations classiques. Et du coup, détruire l'objectif commun qui était de préserver ce bien commun et cet intérêt général. Et je pense que l'un va pas sans l'autre. Ça permet vraiment de maintenir un bon fonctionnement et de faire en sorte que l'objectif final, il soit toujours présent. Et à mon avis, c'est. Enfin, en tout cas, moi, j'espère qu'il y ait des combats qui durent depuis des années qui arrivent à se pérenniser et à avoir un peu plus d'impact, justement parce qu'on réfléchit comment les mener et les porter et qu'on sort un peu des principes d'organisation où on a un leader, un chef et les autres doivent suivre. Voilà. Donc, je pense qu'il y a, moi, je vois vraiment un lien entre les deux sujets, quoi.
Oui, je trouve que cet exemple est très bon parce qu'il réunit et. Les principes qu'on avait identifiés. Oui, les principes sont qu'on agit pour un bien commun qui est souvent beaucoup plus grand que nous et qu'on agit de manière spontanée avec nos ressources. On a la capacité de modifier les lois, les normes qu'on s'est données et les faire évoluer. Et alors, ça rend la communauté d'une certaine manière légère. parce que il n'y a pas des. En fait, c'est le ce qui arrive quand on est pragmatique. Quand on est pragmatique, on ne passe pas beaucoup de temps à réfléchir, mais plutôt à faire. Et en faisant, on découvre ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et après, chacun vient avec son bagage. Et alors, ça permet d'être un peu plus efficace du début. Et après, il y a toujours une écoute des envies de chacun, des capacités de chacun et tout ça. Et moi, un peu ce que je défends avec cette conférence, c'est que des initiatives qui sont éparpillées, qui sont distribuées un peu partout, qui semblent inconnexes, en fait, elles sont connectées entre elles du fait de fonctionner sur des principes similaires, d'avoir ces liens de confiance, d'avoir un fonctionnement qui est très léger, disons, et de fonctionner aussi avec une partie de plaisir, d'un élan. On n'est pas là parce qu'on s'est obligé à y être. C'est pas que la question de on est responsable, c'est aussi on a envie. Et que ça permet de... Et le fait que toutes ces initiatives aient des principes similaires aide à les connecter entre elles. Alors, ça donne une force. Et ça vient au dernier point dont on n'a pas parlé. C'est la cohabitation. Et c'est de dire, aujourd'hui, on est dans un système qui fonctionne de manière hiérarchique, où la propriété, elle n'est pas distribuée de manière équitable, et où on n'a pas les mécanismes pour assurer toujours les bonnes conditions de vie, ou la préservation de l'environnement et tout ça. Alors, on est dans un système qui est, disons, imparfait. On a des idées de comment le système pourrait s'améliorer et tout ça, mais on a... l'impression d'avoir très peu de capacité d'impact, mais justement parce que on est très nombreux à avoir la même idée de dire on doit défendre les biens communs, et on est nombreux à avoir vu que c'est très efficace de fonctionner en petit groupe, organisé de manière comme ça, spontanée. Ça rend une sorte de pouvoir de rapport de force, ça le rend plus fort. On est en train de cohabiter. Ça veut dire qu'on n'est pas toujours en opposition. Et là, c'est l'exemple de community organizing de ce livre de Talpan. Il parle de comment des groupes organisés autour des différents quartiers, groupes de différents types, et parfois politiques, parfois liés à une religion ou des groupes sportifs, ils se sont réunis pour améliorer Los Angeles. Et il y avait des fois où il collaborait avec les institutions, avec les mairies, avec différentes organisations, et il y avait des fois où ils étaient en opposition, nettement en opposition. Alors le fait de cohabiter veut dire que on est toujours confronté à un système qui existe et qu'on va choisir quel est notre rapport. On peut fonctionner en se cachant et par exemple, là, je donne un petit moment au sujet de, par exemple, la création de meubles et tout ce qui a à voir avec... Je regarde Adrien, mais il ne le voit pas. Oui, c'est... tout ce qui a à voir, par exemple, avec l'open source et tout ça, c'est pas des actions qui sont très agressives. Les gens qui partagent des modèles d'open source en ligne, c'est pas une action qui semble créer un rapport de force. Mais par contre, elle arrive à avoir un impact parce que ça permet, par exemple, dans le cas de... Il y a le placemaking, qui est l'aménagement d'espaces publics avec des ressources assez limitées avec les gens du quartier. C'est un type d'intervention qui se sert de tous ces partages d'informations, de l'open source et tout ça. Alors là, on voit un exemple de mode d'action qui est très pacifique, qui semble être très discret. Si on ne s'intéresse pas au sujet, on ne sait même pas que ça arrive, mais qui est efficace. Alors, chacun choisit si être plus visible, moins visible, si être avec un rapport plus... de créer une tension ou pas. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose?
Mais en fait, j'ai juste eu voilà, le petit flash là, de savoir si vous avez évoqué quand même la notion de valeur et du coup de un peu transcender les intérêts, on va dire, individuels. Parce que d'une certaine façon, si on prend une communauté, je reprends la liste là, une communauté qui prend du plaisir à faire quelque chose avec une gouvernance partagée, enfin, on peut quand même avoir des personnes qui, enfin, un peu de le lobbying qui va mettre en avant par la communauté son intérêt privé, qui peut être tout à fait louable, mais qui prend peut-être pas forcément en compte l'intérêt des autres communautés. Du coup, voilà, c'est juste ça. Je sais pas.
On est parti des biens communs.
Ok.
On est parti des communautés qui se génèrent autour des biens communs, de comment il y a un rapport entre la notion de bien commun et la communauté.
Okay.
Et c'est vrai que la notion de valeur, on ne l'a pas explicitée, mais elle est toujours présente. Et c'est vrai que c'est l'un des éléments de la création de la communauté. Mais peut-être que c'est un élément qui se définit. Est-ce que tu penses que c'est à l'origine des communautés ou pas?
Non, pas forcément. Par contre, je pense qu'il y a quand même une certaine, pas vigilance, mais point d'attention sur quel sujet on est en train de défendre et de quelle façon et quel est le contexte dans lequel on est. Il y a quand même des, voilà, des lobbying qui créent une communauté, ils partagent tous les mêmes valeurs, de faire du profit en, je sais pas, en déboisant la forêt, ils se retrouvent quand même autour de valeurs qu'ils partagent et ils créent communauté, etc. Du coup, je pense que là, ce qui est important dans les communautés autour du bien commun, et c'est quand même cette notion de prendre en compte le contexte et de pas se penser comme la communauté unique et ayant la seule bonne parole. Enfin, c'est vraiment cette côté de cohabitation aussi entre les communautés et de faire en sorte que c'est pas... Voilà, je sais pas, c'est juste que c'est une réflexion qui m'est venue parce que...
Nous en parlant entre nous, on parlait souvent de quelle est la fin ultime, et c'est de faire que la vie soit possible. Genre, le fin ultime, c'est de créer des conditions pour la vie. Et alors, les biens communs, ils sont liés à ça. Et après, souvent, les communautés, elles sont autour aussi de l'amélioration des conditions de vie, surtout quand on parle des biens communs urbains. Si vous voulez, on pourrait finir bientôt. Moi, je ferai juste un tour d'exemple pour finir, pour voir si... Parce que finalement, ce qu'on a présenté, c'est une sorte de grille d'analyse que nous, on va faire évoluer. L'idée, c'est de la compléter. Et aujourd'hui, l'objectif était justement de trouver des exemples pour enrichir cette grille et de la tester. Et on pourrait chercher d'autres exemples de communautés ou de, je sais pas, mouvements, initiatives et faire le petit test. Est-ce que ça correspond? Et voilà.
Bah, moi, je veux bien lancer Notre-Dame-des-Landes.
Très intéressant.
Ah non, mais moi, voilà, faut on passe à la grille.
On fait un petit dialogue, toi et moi. Je te demande
des choses. Je suis pas experte sur le sujet. Du oui, coup, mais il y a des infos que j'aurais pas. Mais
est-ce que Notre-Dame-des-Landes met au centre la vie, la création de des conditions de vie?
Non, mais en fait, c'est compliqué à répondre. Ouais, comme ça, là.
Okay, on va faire le test après, alors.
Ouais.
Ou est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose sur Notre-Dame-des-Landes? Comment vous le voyez?
Parce que là, en fait, c'est typiquement le genre de sujet qui peut diviser. Tout le monde n'est pas, enfin, tout le monde n'est pas d'accord sur cette notion de bien commun. Donc, enfin, voilà.
Est-ce que vous avez d'autres exemples? Toi, tu voulais dire.
Bah, hacker la ville. Enfin, je crois que c'était le titre. Et, enfin, du coup, après tout ce qu'on s'est dit, pour vous, c'est quoi hacker la ville? Ou quand vous étiez arrivé, c'était quoi hacker la ville? Et ça veut dire quoi pour vous, à quelle ville, en fait?
Nous, par exemple, l'exemple oui, qu'on aime beaucoup, c'est le guerrilla gardening. Vous connaissez ça? Il y a des... Je pense que c'est né au Japon ou...
Non, c'est né en Angleterre.
En Angleterre, ok. C'est des gens qui sont des jardiniers, mais c'est des jardiniers sauvages. Ils ont des sortes de boules...
C'est des seed bombs.
Oui, c'est une bombe de Oui, des graines. Alors, il met ça un peu partout. Il les jette, il les balance dans des lieux pour qu'il y ait des plantes qui poussent. Alors, ils arrivent à modifier l'image de la ville. Après, il y a aussi des jardiniers, tout simplement. Ils arrivent avec leurs outils. Ils se mettent à planter dans un lieu qui était abandonné. Mais ils arrivent à transformer la ville avec une action qui est un principe positif. C'est pas du vandalisme, ce qu'ils font. Et après, ça a un impact qui est à plusieurs niveaux, parce que c'est aussi la surprise des gens qui habitent dans le coin, qui disent qu'est-ce qui s'est passé, d'où viennent toutes ces fleurs, ou on peut chercher d'autres exemples. On a mis ce nom pour que les gens viennent à la conférence. C'est... moi, j'ai un autre exemple.
Non, mais moi j'avais cette... Enfin, j'ai pense encore à cet exemple-là des... Bon, mais c'est plutôt pour répondre à la question de qu'est-ce que c'est, à quelle ville. Mais c'est l'exemple que je viens de donner là. En fait, les choses qu'on est en train de hacker, c'est la participation citoyenne dans notre quartier. Parce qu'en fait, s'il y avait un facteur commun de tous les gens là, c'est qu'ils sont tous essayés de participer et qu'ils ont trouvé beaucoup de barrières. Et du coup, on est arrivé à l'image, en discussion, on a fait une espèce de cercle de parole, et puis on a passé beaucoup de temps là-dedans, hein, juste pour digérer qu'est-ce qu'on a vécu pendant les dernières semaines. Et on a vu que, en fait, quand on va faire un changement dans notre manière de vivre, ou dans notre maison, par exemple, on va changer quelque chose, on va les projeter, et on va dire, ok, je voudrais bien qu'il y ait un espèce de meuble, un truc comme ça, et on pouvait aller à Ikea pour voir un peu, s'inspirer, l'acheter. Mais si on veut changer le quartier, il n'y a pas Ikea. Il n'y a pas l'Ikea de la ville. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ni Ikea, ni l'espace d'expérimentation de la ville. C'était très difficile. Et du coup, même s'il y avait des favelas ou des tiers-lieux et tout ça, c'était pas la même chose. C'est pas comme si on allait dans un tiers-lieu, on pouvait vraiment changer l'onzième, pour le coup, notre quartier. Ce qui se vient que le 20e, il y a des espaces d'expérimentation, mais dans l'onzième, c'était, on a vraiment fait le tour de la popote, on va dire. Et il n'y avait pas. Et du coup, hacker la participation, c'était, on va pas passer par les conseils ou par les, on va les faire, on fait son un prototype entre tous, et on va avoir un poids tellement fort au niveau des disséminations, des coms, enfin, des disséminations du projet, que les gens vont voter dans les budgets participatifs. Parce que souvent, les budgets participatifs, ils gagnent avec juste une personne qui a eu une idée, et il y a des gens qui vont adhérer. Mais comme c'est construit entre plusieurs, bah là, il y a les familles de ces gens qui viennent du quartier. Les problèmes viennent du quartier aussi. C'est pas une idée qui vient de nulle part, mais c'était une idée qui vient du quartier et qui était testée. Tu vois, tous les gens qui ont testé ces prototypes aussi, ils sont sensibles à que ces projets-là se passent. Et du coup, c'est un espèce de hacking, mais c'est comme un système informatique, c'est dans fonctionnalité de l'ancienne, juste.
Moi, je pense que c'est très juste ce que tu dis, parce que nous, par exemple, on travaille beaucoup autour du jeu, et on entend hacker quand on parle de la ville par une sorte de détournement des règles qui sont attendues, mais pas exactement des règles qui sont écrites. Parce que dans la ville, par exemple, personne ne dit que tu n'as pas le droit de marcher en faisant des triangles. Mais si tout le monde se met à marcher comme ça, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est la même chose, il n'y a personne qui dit que c'est interdit d'aller dans le conseil des quartiers avec tous tes amis. Mais tu fais un usage de quelque chose qui est là, et tu cherches un peu les limites du dispositif, où tu vas peut-être utiliser le dispositif d'une manière qui n'est pas prévue. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les énergies qu'on va donner, elles ne se retrouvent pas dans une confrontation. L'opposition serait, par exemple, de vouloir être dans une confrontation directe avec quelqu'un qui fait quelque chose qui ne nous plaît pas. Et l'énergie qu'on dépense dans la confrontation est énorme, et ça nous renvoie quelque chose de négatif, parce qu'il y a une certaine violence dans la confrontation. Par contre, quand on va chercher toutes ces failles, on arrive à être dans une force créative où tu peux avoir un impact, mais aussi ce que te renvoie à toi, c'est positif. Tu n'es pas bousculé parce que tu as participé. Voilà.
moi aussi je voulais, par rapport à l'expérience en tant que du coup habitant qui voit en fait ces différents hacks et interventions dans l'espace public, c'est aussi une façon de se poser des questions sans qu'il y ait personne qui nous dise quoi penser. Quand on voit bah, effectivement là, les actions de guérilla gardening ou même des interventions de street art qui auraient une connotation un peu plus politique ou en tout cas située dans un espace public, il n'y a personne qui va nous dire ce qu'on doit penser, c'est nous qui allons interagir avec ce nouveau, ce détournement et nous faire notre propre point de vue, ce qui est totalement différent que si c'est quelqu'un qui nous, enfin voilà, la confrontation directe. Donc y a aussi de ça dans le hacking, c'est qu'il y a une part de liberté sur l'interprétation et sur comment on peut lire le message, et ça peut être plus comme juste du divertissement et voilà, une façon d'embellir, et puis bon, ça peut être lu différemment en fonction du point de vue de chacun, et c'est vrai que c'est assez intéressant de laisser la liberté du coup de penser sur les actions, quoi.
Bon, super. Je sais pas, et moi je pense que on pourrait presque s'arrêter là, sauf si vous voulez encore sortir deux trois sujets.
Je veux juste rajouter un truc qui a un mode d'action qui me semble intéressant, c'est au croisement en fait entre le hacking traditionnel qui veut être de l'ingénierie en fait, où on décompose l'ingénierie d'un objet, on fait de l'ingénierie inversée en fait, a priori, pour se réapproprier ce système, le modifier, l'amender, enfin qu'importe, le détourner. Et en fait, le fait de hacker la ville peut aller avec ça quelque part. Parce qu'on va être dans le hacking, dans le fait de reconstruire un système de conception pour un objet, donc a priori de façon expérimentale. Alors encore une fois, il y a plein de façons de faire du hacking qui dépendent des médias qu'on mobilise. Mais il y a un mode d'action en fait, qui est entre les deux et qui peut être comment est-ce qu'on mobilise l'espace public, éventuellement en détournant les règles d'appropriation de l'espace public. Par exemple, on va faire une installation ou quelque chose d'assez volumineux dans l'espace public, mais sur roulette. Donc en fait, c'est éphémère, c'est déplaçable. Donc a priori, on a très peu de chances d'avoir des ennuis. Tout en croisant, par exemple, en croisant des enjeux qui peuvent être assez essentiels, comme la nourriture, l'habitat, faire des maisons mobiles, faire de la fabrication mobile, des choses qui sont, on va dire, citizen proof, dans le sens où vandalisme proof, dans le sens où on fait en sorte qu'elle soit quand même résiliente dans le temps, et qui permettent de transmettre de l'information, ou réouvrir l'ingénierie en fait, et donner une autre porte d'entrée sur le hacking, ou par le hacking, sur les systèmes, dans le sens où le hacking en soi est déjà une pratique de personnes, on va dire éclairé en fait, qui a déjà suffisamment de connaissances pour pouvoir adresser cette pratique. Donc, tout ça pour dire que l'espace public peut être aussi un espace d'éducation d'une autre manière, que ce soit par le jeu, que ce soit par...
Oui, en t'écoutant, je me suis souvenu d'un autre exemple qui est à Saint-Ouen, proche de là où j'habite. Il y a un terrain de pétanque et un petit parc qui est assez sympa parce que bon, c'est une petite place qui est entre deux rues. Et alors tu vois toujours les bâtiments et d'un coup tu vois le parc et après tu vois les bâtiments. Bon, c'est assez sympa comme lieu. Et tu vois souvent des gens là-bas qui discutent. Voilà. Et de loin, tu aperçois pas qu'il y a beaucoup de chaises qui sont des chaises normales. Quelqu'un a amené des chaises. Et il y a aussi une petite table qui tous les jours est un peu déplacée. Tu sens que les gens s'aménagent, mais ça, c'est pas la mairie qui l'a fait, c'est les gens du coin. Et il n'y a pas longtemps, j'ai passé par là, et il y avait des gens qui regardaient un film sur un ordi. Ils étaient autour d'une table, et ils regardaient le film. J'imagine qu'ils captaient Internet, ou ils avaient le film, bon, j'en sais rien. Mais pour moi, ça, c'est un détournement. Et après, en Espagne, j'ai vu ça à Valence, et quand il fait très chaud l'été, parfois les voisins, ils sortent les chaises, mais avec les tables et tout. Et il se met à dîner dehors. Parce qu'il y a des coins qui sont piétons. Et il sort tout. Et pour moi, ces actions qui ne sont pas très réfléchies, qui sont très spontanées, peut-être, je sais pas, chez toi c'est un peu petit et t'as invité des amis et il n'y a pas la place ou il fait très chaud. Ou... Pour moi, ça c'est aussi un détournement, même si c'est pas technologique. Là, toi, tu parlais de technologie inversée. Ça, c'est pas vraiment technologique, mais c'est une manière d'utiliser la vie autrement. Je sais pas. C'est petit hacking.
D'ailleurs, quand tu dis qu'il capte Internet d'une certaine façon, en fait, il y a ça aussi qui est. Enfin, c'est lié quelque part au projet de Thomas Saraceno Aerosen, qui est donc avec les ballons dans l'air et qui. Le concept de global du projet, enfin le pitch, c'est un peu en tant que citoyen, donnons-nous les moyens de réinvestir l'air comme commun. Tout à l'heure, tu parlais de l'air qui est un commun. Et parce que l'air est pollué, et en fait, il n'est pas pollué par tout le monde, même si on peut parler d'agentivité et du fait que tout le monde met un peu de pétrole d'une façon ou d'une autre dans la société. Ou voilà, chacun a son poids en CO2 pour voyager à l'autre bout du monde, ou qu'importe. Mais du coup, au final, ça reste des industries qui polluent quand même, au final. Donc, est-ce que ça appartient à tout le monde, la pollution, ou pas, ça, je ne sais pas, c'est encore une autre question. Tout ça pour dire que c'est pas parce que c'est pas un élément physique, comme la terre, comme un banc, comme... ou un panneau stop, que ça ne fait pas partie du domaine public et de tout à l'heure ce qu'on a essayé de, pas de classifier, mais en tout cas de définir entre bien commun, public et privé. Et donc, ces espèces d'incursions dans la ville en disant bah, on balance des ballons, alors avec un objectif en général, et qu'on va essayer de récupérer au lieu de lancer dans l'océan, pour s'approprier l'espace public, aller mesurer nous-mêmes en fait, la pollution. Pour savoir comprendre aussi comment est-ce qu'elle est mesurée, comment sont faits ces indicateurs, pour ne pas déléguer notre confiance à tout prix dans ces choses qui sont a priori extrêmement importantes sur la définition de notre rapport au monde. Donc ça, c'est aussi une façon d'agir. Et même si l'air, au final, par exemple, est un médium, a priori, on ne voit pas forcément la pollution, en fait. Enfin, on peut la voir à une certaine distance, etc., mais on a du mal à intuiter ce que c'est vraiment, en fait. C'est, on ne voit pas un bloc d'ozone, on ne voit pas ça. Et du coup, le lien, il y a aussi un lien avec le Wi-Fi, en fait, le Wi-Fi, les télécommunications, avec ces réseaux qu'a priori on ne voit pas. Alors, il y a des projets qui ont été faits pour comment est-ce qu'on peut rendre, via des capteurs, des LED qui s'allument comme ça, et de la longue exposition, comment est-ce qu'on peut cartographier dans une pièce, dans un volume, le réseau Wi-Fi, à quoi est-ce qu'il ressemble physiquement, en fait, puisqu'on a du mal, enfin nos sens ne nous permettent pas de voir ces choses-là. Mais donc du coup, c'est aussi une façon, ou en tout cas une chose qui me semble importante aussi d'adresser dans l'espace public en bien commun.
Alors, en t'écoutant, je me suis dit que ce qu'on pourrait faire, c'est de presque finir là. Et juste un dernier truc, c'est nous, on organise souvent des meet-ups. Est-ce que vous avez des sujets pour les prochains meet-ups qui vous semblerait intéressant? Parce que souvent, ce qu'on fait dans nos rencontres, c'est qu'on trouve les sujets pour les prochains. S'il y a une question qui, peut-être, c'est très complexe à aborder, ou aujourd'hui, on n'a pas pu aborder, ou est-ce qu'aujourd'hui, vous aurez voulu avoir, par exemple, plus d'exemples, ou des exemples très précis, plus précis par rapport à un truc en particulier? Est-ce que vous avez, voilà, des questions pour les prochains?
Bon, moi, pour les prochains, enfin, c'est... Je pense que ça serait cool de voir l'histoire significative de chaque personne, les choses qu'ils veulent partager. Par exemple, quand on travaille avec des communautés, on fait un truc qu'on appelle la rivière de la vie. Du coup, ça peut être juste un S. Et tu analyses une période de ta vie, peu importe lesquelles, celle que tu veux partager avec les gens. Et la chose qui est cool de ça, c'est que tu dis des choses que tu veux... revivre, ou vivre à nouveau, ou des choses que tu veux plus jamais vivre. Mais là, tu peux les donner un cadre, bien sûr, parce que ça peut faire émerger des choses assez compliquées, et s'il n'y en a pas les gens dans la salle qui peuvent gérer ça, c'est chaud. Du coup, tu peux cadrer ça sur mon quartier, ou sur la propreté, faut pas plus importe. N'importe quel sujet. Et ça fait que tout commence à les dialogues commencent des expériences réelles, et après, on va au méta. Pas l'inverse. Du coup, ça, je pense que ça peut être cool. Et là, les sujets, ça peut être, si vous le faites, enfin, des choses qu'on a parlé aujourd'hui, ça peut être la participation citoyenne ou mais depuis une expérience significative et pas depuis les livres. Mais comme les auteurs des bouquins, normalement, ils sont en expérience significative et c'est la théorie, ils vont théoriser ça après. Mais d'avoir commencé comme ça, ça peut être intéressant, je pense, pour un meet-up. Et si c'est des gens surtout d'un même quartier ou au moins d'une même ville, aussi c'est hyper intéressant parce qu'il va y avoir des expériences qui vont se recroiser. Par exemple, moi j'ai mal vécu ça, et il y a une autre personne qui dit « moi aussi j'étais dans cette période-là ». Et ça, ça va être super intéressant pour tisser des choses comme parler des communautés, plaisir d'agir, et les contraires aussi, les nuances d'agir. Des gens qui disent « j'ai fait ça, et puis maintenant je me suis emmerdé à faire ça, et puis c'était vraiment pas cool, quoi ». Parce que ça, on a trouvé aussi, quand on posait la question des participations, moi, je disais que quand on posait la question des participations, il y avait des gens qui disaient ça. Je me suis emmerdé à faire ci. Et voilà, ça m'a apporté des problèmes plutôt que. Donc ça...
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais tout le monde, même si on n'en a pas parlé, toujours part de ses propres expériences. Et c'est intéressant de les rendre visibles, parce que là, on comprend beaucoup mieux les positionnements de chacun. Et oui, et justement, si tu as une expérience négative, tu es méfiant. Mais c'est juste parce que voilà, tu as vécu un truc qui. Qui te montre, voilà. Non, c'est, je pense que c'est une super proposition que tu as fait. Et qu'on peut...
Et qu'au meet-up, ça peut être appelé un truc du style, enfin, je sais pas, c'est construction de la ville depuis l'expérience significative, construction des communautés depuis l'expérience significative, en appuyant ces côtés histoire, histoire significative. C'est l'histoire significative, c'est celle que j'ai vécue, je me rappelle, et que j'ai partagée avec des gens. Ce qui est l'autre histoire, non ? Aussi. L'histoire qu'on utilise beaucoup dans les débats, l'histoire du monde ou l'histoire d'ailleurs, mais il y a aussi l'histoire, notre histoire. Et ça, ça peut être cool.
Dans le livre qui est là, de gentrification, il parle beaucoup de la trajectoire personnelle à travers différents territoires. Et l'un des exercices qu'il propose, c'est de faire la carte des lieux où tu as vécu. Ah ouais, et c'est un peu lié à ce que tu dis, Jean. Quand tu as la carte des quartiers où tu as vécu, tu peux aussi dire, voilà, et aussi des lieux où tu veux retourner, mais même si ce n'est pas physiquement. Par exemple, moi, je vais très vite, mais quand j'étais petite, j'ai passé mes étés dans un lieu qui fonctionnait comme une communauté. Et souvent, quand je parle de communauté, c'est parce que j'ai ce souvenir de où tous les enfants étaient ensemble et les adultes, ils bouffaient des cafés et des bières. Et nous, on était les enfants de l'autre côté. Mais ça, c'est des expériences qui marquent beaucoup et qui font que, pour moi, c'est très positif de parler de communauté parce que j'ai eu une expérience très positive dans quelque chose que j'associe à une communauté. Mais oui, en effet, les trajectoires habitationnelles et plus les expériences, c'est très intéressant.
Non, oui. Ça peut être un bon exercice. Parce que et après, ça peut finir avec des choses visuelles très fortes aussi. Ce qui est juste rien que le fait des choses comme dessiner ta chambre, ou les chambres là où tu habitais, ou, enfin, je sais pas, ou juste les maisons, le quartier, peu importe. Mais je pense que le mélange de ces deux-là, des histoires plus cartographiées, ça peut être super intéressant pour parler de tout ça.
Super. Bon, est-ce que vous voulez dire quelque chose ou on peut finir ? Oui, vas-y.
Je voulais juste te dire merci parce que tu m'as donné une super idée pour mon prochain atelier, donc cool, merci.
Bon, merci beaucoup et merci beaucoup d'avoir été si présent. Genre, comme vous n'êtes pas nombreux, mais on a senti comme si on parlait à un public d'une vingtaine de personnes parce que vous étiez très présent. Alors merci beaucoup, c'était très intéressant. Et voilà, on va refaire des événements, on va vous en parler pour que vous soyez au courant. Voilà.
Merci beaucoup pour votre intervention, d'être venu et d'avoir animé cette conférence. Et pareil, pour la prochaine fois, je pense que ce sera peut-être plutôt à la rentrée, mais on vous invitera avec plaisir, et notamment peut-être pour parler de gamification et faire des ateliers pratiques en Super. Pleine journée, oui. Si possible, à la Trop rentrée. Bien.
Merci. Bon.